Radio Campus Bordeaux 88.1.
Il est 13h03, on est toujours en direct et vous écoutez Café Campus. À présent, c'est l'instant interview et invité. Aujourd'hui, nous recevons en direct Hugo Fournier, doctorant en psychologie au sein de l'Université de Bordeaux, qui est d'ores et déjà avec nous en studio. Bonjour Hugo.
Bonjour Mélissa, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nathan.
Comment ça va?
Ça va plutôt bien aujourd'hui. Très content d'être ici pour pouvoir parler un petit peu de ce que je fais. Espérons que ça parle à tout le monde et que je sois compréhensible.
Et oui, car tu es doctorant en psychologie et ta thèse porte sur le vécu des personnes qui ont un albinisme en France, si je ne me trompe pas. Et on va en reparler tout au long de cette interview. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter davantage aux auditeurs et aux auditrices et nous parler un peu de ton parcours jusqu'à la thèse?
Alors du coup, comme tu l'as très bien dit, je m'appelle Hugo Fournier. Moi à la base du coup je viens du Périgord, j'ai fait ma licence à Bordeaux, mon master à Bordeaux en psychologie, le master du coup spécialisé en psychologie de la santé, donc ça va être tout ce qui va être les études qui vont voir comment une personne s'adapte ou s'ajuste à des difficultés de santé physique globalement. Et du coup à la base je voulais pas du tout faire de recherche, c'était pas du tout mon délire comme on dit. Et à la fin de mon mémoire, mon directeur de thèse, monsieur professeur même Bruno Quintard, m'a sollicité pour me proposer ce projet de recherche auquel j'ai pas très longtemps réfléchi pour dire oui, étant donné que c'était financé et que ce genre de financement en sciences humaines sont assez rares quand même.
Oui, parce que tu es financé par la Fondation des maladies rares, on va en parler. Donc ce sujet, il t'a été amené en fait, c'est pas vraiment toi qui l'as choisi.
Exactement, c'est ce qu'on appelle dans le milieu un projet clé en main. Donc ouais, on arrive avec un protocole déjà plus ou moins établi, même carrément établi, qui a été validé par le comité scientifique ou conseil scientifique, ça dépend de l'intitulé, mais voilà, du conseil scientifique de la Fondation des maladies rares. Et on me propose le projet, moi je le lis, je regarde si je peux m'en emparer, si ça correspond un petit peu à ce que je sais faire déjà, en termes de méthode, en termes d'analyse, etc. Ça correspondait à peu près à ce à quoi j'avais été formé, donc du coup j'ai accepté. Et là j'en suis au bout de mon financement, et comme il reste encore des analyses à faire et qu'on a toujours du retard dans la recherche en sciences humaines et dans la recherche en général de toute façon, là je suis financé par un contrat ATER avec la fac, donc je fais des missions d'enseignement en plus.
Donc l'albinisme, c'est une maladie rare, voire très rare. Justement, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes victimes de cette maladie en France?
Pas tant que ça. La prévalence, alors on va dire que de base, on dit qu'elle est de 1 pour 17 000, mais là, il y a un article récent qui vient un petit peu nuancer ce propos et qui dirait qu'en France, la prévalence soit un petit peu moins forte, donc du coup on est un peu en dessous du 1 pour 17 000 si je me trompe pas, et du coup c'est assez rare. Alors je saurais pas exactement vous dire le nombre exact de personnes albinos, donc personnes qui ont un albinisme, il faut faire attention aussi avec avec ça, on dit plus trop albinos, on dit personnes avec albinisme, mais du coup ces gens là, ces gens concernés, je saurais pas exactement dire le recensement précis, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui passent au travers des mailles du filet du diagnostic, parce que c'est très difficile à identifier. Et comme c'est un trouble, enfin une condition génétique, on va dire, qui touche la peau et la mélanine, l'absence de mélanine, nécessairement, dans les pays où on est de couleur blanche de peau, c'est un peu compliqué à repérer, quoi. Et il y a quelques signes à l'enfance qu'on arrive à déceler. Ils ont des problèmes visuels assez évidents, donc c'est ce qui permet d'établir déjà un premier diagnostic, mais très souvent, on passe à côté. Enfin, très souvent, assez souvent, ça passe à côté. Et ça retarde le diagnostic, et dans certains cas, on a des personnes qui peuvent vivre assez longtemps sans savoir qu'elles ont, au final, effectivement, cette condition génétique.
Et toi, tu t'intéresses à leur vécu, à travers un angle plutôt psychologique. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça?
Ouais, tout à fait. En fait, comme il n'y a pas de recherche qui a été fait en France sur le vécu de l'albinisme, nécessairement, il faut faire une étude, ce qu'on appelle exploratoire là-dessus. On n'a pas forcément d'hypothèse a priori à poser qu'on doit confirmer ou infirmer. On va juste faire un état des lieux de comment ça se passe. Alors moi, ça s'est illustré par une première recherche de revue de la littérature systématique où en gros, on regarde tout ce qui s'est fait dans la littérature scientifique, on agrège tout ça, on essaie de trouver des grandes lignes directrices ou des grands résultats qu'on peut synthétiser au sein d'un même article. Et c'est ce que j'avais fait, et ça prend déjà pas mal de temps, parce que du coup, il y avait très peu de données sur l'albinisme. Il a fallu que je le mette en comparaison avec d'autres conditions génétiques pour sortir en fait des résultats assez intéressants, un peu comparatifs. Et ensuite, des entretiens et des questionnaires. tout bêtement. Et c'est des entretiens téléphoniques, parce que du coup, bah, c'est partout en France que j'ai dû recruter. Et la petite particularité de ma recherche, en plus de questionner le vécu direct des personnes concernées, ça va être de questionner leurs proches et de voir un petit peu comment ils s'ajustent au niveau familial. Et les deux, on va dire, relations qui sont particulièrement investiguées dans ma recherche, ça va être les relations parents-enfants ayant un albinisme et partenaire de vie. Du coup, conjoint-conjointe, concubin-concubine, tout ça, quoi.
Et toi, quel est ton rapport personnel à l'albinisme ? Est-ce qu'il était inexistant avant que tu commences ton travail de recherche et qu'est-ce qu'il est devenu maintenant que tu fais cette recherche ?
Avant, j'y connaissais rien. Non, avant, j'y connaissais rien du tout. C'est ça qui était un petit peu difficile au départ quand on vous parle d'un sujet auquel vous n'êtes pas du tout formé à la base. Mais voilà, c'est un petit peu le gros du grand champ des maladies génétiques. C'est qu'il y en a aujourd'hui, y en a une grande quantité qui sont recensées. Je ne sais plus à combien on estime le nombre de maladies génétiques, mais c'est assez conséquent. Je crois que c'est entre 6000 et 8000. Du coup, les maladies génétiques sont rares, mais il n'est pas rare d'avoir une maladie génétique. Lorsque je me suis renseigné sur l'albinisme, ce que j'avais au départ, moi, c'est tous les gros préjugés et tous les stéréotypes qu'on a qui sont liés, par exemple, à l'imaginaire autour de l'Afrique, parce qu'on sait que là-bas, c'est une condition à la fois de santé, mais aussi une condition sociale qui est extrêmement compliquée à gérer, où il y a de la discrimination liée à des croyances et des superstitions qui font que ces personnes sont complètement ostracisées de la société. En France, c'est différent. Elles sont ostracisées parce qu'elles sont invisibles, ces personnes-là, la stigmatisation va être structurelle, va être institutionnelle, et c'est là où en fait ils vont se sentir exclus. Et moi, j'avais pas tout ça avant de commencer la recherche. Je l'ai acquis au fur et à mesure, et je me suis pris pas mal de petits recadrages par les participants et les participantes que j'interviewais ou que je questionnais, parce que je me rendais compte, bah, typiquement au début, mon protocole n'était pas adapté pour la malvoyance. Comme je disais, c'est des personnes qui ont des gros problèmes visuels pour la plupart, et du coup on apprend en fait avec eux. Et c'est là où il faut être assez malin en tant que chercheur ou chercheuse, c'est qu'il faut toujours être position ultra basse avec ces personnes-là, parce qu'on est pratiquement ignorant en fait au départ quand on n'a pas eu ces connaissances-là.
Tu as recueilli le témoignage de 38 personnes ayant un albinisme accompagné d'un proche, comme tu l'as expliqué. Comment tu as sélectionné ces personnes pour ces entretiens ?
Alors, déjà, il fallait que tout le monde soit d'accord pour faire entretien et questionnaire. Alors, normalement, c'est entretien et questionnaire, et au bout d'un... Il y a besoin de moins d'entretiens pour tirer des résultats pertinents que de questionnaires à répondre. Le fait est que nos objectifs, pour pouvoir mener les analyses stats qu'on fait, demandaient beaucoup plus de monde. Ça demandait 150 diades, donc binômes proches et une personne ayant un albinisme. Et on est loin de cet objectif, on s'en doutait un petit peu, parce que bah, du coup, c'est très difficile de recruter ces populations, surtout qu'il n'y a pas de gratification derrière, si ce n'est les résultats qu'on peut leur transmettre. Et les autres critères d'inclusion, outre le fait d'être d'accord, ça va être le fait de ne pas avoir de comorbidité de santé physique. Donc, comorbidité, ça veut dire avoir une maladie à côté qui puisse gêner et qui puisse du coup biaiser les résultats, parce que qu'est-ce qui a vraiment un impact sur la qualité de vie ? Est-ce que c'est l'albinisme ou l'autre problème de santé ? Enfin, on ne sait pas. Et typiquement, ça va être toutes les personnes qui vont avoir des troubles neurodéveloppementaux ou des troubles psychiatriques. On va plutôt éviter de les recruter, parce qu'on sait que ça peut être très entravant, parfois bien plus entravant que les difficultés liées à l'albinisme. Et les personnes qui ont des gros problèmes de santé physique, typiquement les personnes qui sortent d'un accident cardiovasculaire important avec des séquelles associées, on ne va pas forcément les recruter, parce que effectivement, là, les problèmes de santé sont accrus liés à l'accident, quoi. Et aussi être avoir plus de 18 ans, parce qu'on n'a pas les accords éthiques pour ça.
Donc, pas mal de critères pour pouvoir participer à cette étude. Ouais. Pour en revenir au travail de thèse, la thèse, c'est un travail souvent solitaire, mais aussi en collaboration. Toi, à quel point tu as accompagné sur ton travail de recherche ?
Alors, moi, je suis super bien accompagné par mon directeur de thèse. J'ai la chance d'avoir un directeur de thèse qui est très humain, qui est là quand ça va pas et quand il y a des problèmes, il est toujours là pour écouter et trouver des solutions. Donc là-dessus, humainement, il n'y a vraiment pas de souci. Je sais que dans ce milieu de la recherche, ce n'est pas toujours le cas. Moi, j'ai plutôt de la chance, je trouve. Après, effectivement, au niveau de l'encadrement, lui, il est plus trop dans les stats et dans les analyses stats récentes que je vais appliquer. Donc là-dessus, il est moins soutien. Mais comme je suis au sein d'un labo où il y a une grande partie des spécialités de la psychologie qui sont représentées, j'ai énormément de collègues sur qui je peux compter quand j'ai des soucis ou besoin d'infos ou besoin de conseils, même de collaborer sur certaines recherches, parce qu'il y a des analyses sur lesquelles je suis pas expert. Et typiquement, c'est ce qui va se passer là pour ma dernière étude, mon dernier article que je vais devoir soumettre. Je vais avoir besoin de l'aide d'un collègues pour mener les analyses, parce que ça touche à des concepts avec lesquels je suis pas suffisamment familier pour pouvoir dire ok, je peux faire de la bonne science avec ça. Il me faut quelqu'un à côté pour contrôler, pour avoir un regard un peu plus avisé.
Et justement, quelles sont les contraintes principales dans ton travail de recherche? Est-ce que c'est les limitations au niveau méthodologique que tu peux rencontrer? Est-ce que ça a été au niveau de trouver suffisamment de personnes pour ton étude? Est-ce qu'il y en a d'autres?
Je risque de prendre beaucoup de temps pour répondre à cette question. Donc, je vais commencer
par... On a le temps.
Okay. La première de toutes, et je pense que c'est celle sur laquelle j'aimerais le plus alarmer les gens à ce niveau, c'est que l'université en France publique va pas très bien. Et notamment dans les sciences humaines, où on est en carence de budget, carence de personnel. Moi, je pensais faire de la recherche en psychologie, je me suis retrouvé gestionnaire de projet, je me suis retrouvé à faire de la juridiction pour justement les accords éthiques et pour la protection des données personnelles des personnes. Donc à lire des bouquins entiers, enfin des rapports entiers de la CNIL pour savoir comment cadrer suffisamment bien la recherche de manière à ce que les personnes ne puissent pas être inquiétées sur leurs données et ce qu'on fait avec elles. Ça prend un an. Et c'est assez complexe. Il y a aussi un autre problème énorme en psychologie en France, et notamment à l'université de Bordeaux, où ils ne sont pas très bons là-dessus, c'est qu'ils n'ont pas de comité de protection des personnes ou de comité éthique de la recherche qui permettent de donner l'autorisation à une recherche de pouvoir être lancée, et qu'il y a tous les rebords de protection des personnes qui sont en place. Et ça, à Bordeaux, on est nul. Clairement, là-dessus, il n'y a pas ce qu'il faut. Ce qui fait que moi, j'ai des collègues, par exemple, qui veulent travailler sur des sujets autour du psychotrauma, par exemple, et qui ne vont pas pouvoir, ou qui vont mettre plusieurs mois, 8, 12 mois, pour réussir à valider leur projet de recherche. Et pendant ce temps, ils attendent. Ils ne peuvent pas lancer leur... Et ils attendent, et des fois, ils se prennent des murs incompréhensibles de la part d'experts qui font partie de ces comités, qui ne sont pas experts, en plus du sujet investigué. Donc ça, c'est frustrant. Là-dessus, ça cristallise beaucoup de frustration et de colère de la part de mes collègues et de moi aussi, parce que moi aussi, j'ai pu être vachement embêté au début de la recherche pour ça, et nous, on a décidé de passer par des chemins annexes qui ne sont pas forcément plus OK, mais qui permettent au moins d'aller plus vite.
Il y a souvent cette distinction qui est faite entre les sciences humaines et les sciences dites dures. D'ailleurs, les sciences humaines sont souvent appelées les sciences molles, ce qui est connoté très péjorativement. Ouais. Toi, est-ce que tu le ressens en tant que doctorant en psychologie, ce côté, un peu cette compétition entre les deux disciplines ?
Pas vraiment, au final. En tout cas, pas à mon niveau, pas au niveau doctoral, excusez-moi. Par contre, là où je sais que ça peut se ressentir, peut-être dans des conférences de médecine ou des trucs comme ça, parce que nous, en psychologie de la santé, vu qu'on est beaucoup amené à travailler avec des médecins ou des professionnels médicaux qui eux estiment faire de la science entre guillemets dure. Des fois ça peut se ressentir, mais ça tend à disparaître. Moi je le sens pas, socialement je le sens pas beaucoup, et puis comme je travaille vraiment avec des méthodes ultra ultra rigides au niveau statistique, j'ai du mal à me dire qu'on fait de la science molle quand je vois qu'on est en train de coder sur du R pour faire des analyses stats. Tu fais c'est vachement mou ça, mais voilà. Donc moi je le sens pas trop. Peut-être que la génération d'au-dessus a dû peut-être mieux le sentir en ce moment, je trouve, enfin actuellement en tout cas, je trouve que ça se dilue.
Et pour en revenir à ton sujet de recherche, à ta thèse, quel est le but de cette recherche à terme, sur le long terme ?
Alors, l'idée, ce serait de pouvoir proposer des recommandations pour les institutions, pouvoir aussi... Excusez-moi.
Pas de souci, c'est le direct.
pouvoir aussi proposer pas mal de pistes pour les associations. Il y a une association en France de l'albinisme qui s'appelle Genespoir, qui est hyper présente et hyper importante aussi au niveau international. Ils sont très, très impliqués dans l'Alliance mondiale albinisme, notamment, qui vise à faire en sorte que tous ensemble on puisse protéger les droits des personnes qui ont un albinisme dans le monde, que ce soit dans les pays où les populations sont les plus favorisées comme moins favorisées. Quoi qu'il en soit, mince, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Est-ce que tu pourrais me recadrer ?
Oui, bien sûr. Du coup, l'utilité de ta recherche sur le long terme.
Ouais, c'est justement de pouvoir proposer des pistes à partir de mes données à ces associations-là. Ils éditent souvent des livrets, par exemple, Alors, je ne sais pas si c'est tous les 2 ans, tous les 5 ans ou quoi, mais des petits livrets pour les familles et pour les personnes concernées, pour avoir toutes les infos possibles, pour avoir le meilleur suivi. Donc si je peux les aider à étoffer ce type de document, ça peut être pas mal. L'idée aussi, c'est de faire reconnaître un petit peu plus l'albinisme au niveau des institutions du handicap. Typiquement, aujourd'hui, les MDPH sont à la masse au niveau maladies rares, à la masse déjà sur pas mal de trucs, mais au niveau maladie rare, ils sont bien, ils connaissent pas très très bien, et ce qui fait qu'il faut vraiment un accompagnement de dingue pour les personnes qui sont concernées par l'albinisme, parce que le dossier MDPH prend énormément de temps à faire, et s'il n'y a pas quelqu'un qui est habitué à faire avec ça, bah, très facilement ils ne peuvent pas avoir accès à leurs droits, ça peut être très difficile d'obtenir un taux d'invalidité qui leur permette d'avoir un quotidien un petit peu plus facile à gérer. Donc aussi permettre une reconnaissance institutionnelle du trouble, ce serait, enfin de la condition, excusez-moi pour mon abus de langage, ce serait pas mal.
La thèse, c'est un travail sur le long terme, surtout en sciences humaines, ça prend beaucoup de temps. Souvent, on l'a fait très rarement en 3 ans, ça prend beaucoup plus de temps, 4, 5, voire 6 ans, voire encore plus pour certaines personnes. Toi, est-ce que ce travail en tant que doctorant, il te plaît? Et comment tu fais pour rester motivé et continuer à trouver le sens dans ce que tu fais? Parce que les résultats ne sont pas tout de suite. C'est un travail de longue haleine qui se constitue, et c'est bien plus tard qu'on voit... finalement, ah oui, j'ai quand même fait ça, ça reste un travail conséquent.
Ouais, bah alors justement, c'est pas tous les jours facile, c'est long déjà. C'est-à-dire que là, typiquement, là, je suis dans une période où je sais qu'il me reste vraiment la dernière montée à faire. On arrive à la fin de l'étape, il reste la dernière grimpe à faire et il faut pédaler. Et c'est dans ces moments-là où c'est un peu compliqué de trouver la motivation et de trouver de l'encouragement, enfin, s'auto-encourager pour réussir à aller jusqu'au bout. Pareil, il y a des moments où, confronté à toutes les contraintes institutionnelles dont j'ai pu vous parler, on perd un peu le sens de ce qu'on fait, même carrément le sens de ce pourquoi on fait de la recherche, et c'est à ces moments-là où on se décourage beaucoup. Ce qui aide pas mal, c'est à partir du moment où on commence à avoir les premières gratifications de son travail, quand on commence à par exemple soumettre, publier son article, avoir le retour des pairs, faire aussi pas mal de congrès, ça permet de rencontrer des gens et de se dire ah mais on n'est pas tout seul en fait dans cette situation. Il y a le soutien social des collègues qui est énorme depuis que j'ai eu un changement de labo en cours de ma thèse. Avant, j'étais très télétravail et tout seul, et en plus, il y avait confinement, donc j'étais vraiment assez isolé. Et depuis l'arrivée à ce labo, qui est le laboratoire de psychologie à Bordeaux, ça va beaucoup mieux, on a ce soutien-là. Ça, c'est non négligeable. C'est ce qui me permet, je pense, de tenir le cap. Le fait d'avoir du monde autour de soi et aussi le fait d'avoir des encadrants et des personnes encadrantes qui fassent vraiment le taf. Vraiment.
Et en parlant de sens, est-ce que tu trouves que la recherche et le travail de chercheurs, le travail des chercheurs, est suffisamment mis en avant et compris dans la société actuelle ?
Eh ben, je n'ai pas vraiment l'impression. Et même des fois pour moi, je commence à perdre le sens de ce que je fais quand on a la tête dans le guidon, quand on est pris par exemple dans les analyses d'entretien. Je me rappellerai toujours de cette période au début de l'année 2023 où je traitais les entretiens à la chaîne, à les retranscrire, à les recoder, etc. Où c'est vraiment en fait de la main d'œuvre mais intellectuelle. On a l'impression d'être un ouvrier du cerveau à ce moment-là. C'est très très dur à ces moments-là où on est vraiment la tête dedans. Et je vois pas comment on peut faire autrement en fait pour réussir à faire ce travail à bien. Donc c'est vraiment, il y a des moments où c'est pas facile et où c'est quand on arrive à sortir la tête du guidon et qu'on voit un peu le puzzle de plus loin. Pardon, je m'écarte un peu trop du micro. Du coup, quand on arrive à voir le puzzle dans lequel on a la tête d'un peu plus loin, où on se dit ah ouais, là ça reprend du sens. Là je commence à voir un petit peu l'intérêt de ce que je fais. Mais ça prend du temps.
Ça prend du temps, c'est vrai que parfois la recherche c'est pas un milieu qui est vraiment très compris ou correctement même médiatisé tout court. Et justement, pour continuer à parler des maladies rares, est-ce qu'il y a un désintérêt sociétal pour les maladies rares? Comment tu trouves qu'on se positionne par rapport à ça?
Alors là c'est un peu complexe parce que toutes les maladies rares sont pas toutes médiatisées de la même manière. Typiquement, l'albinisme fait partie des maladies rares qui sont assez bien médiatisées, je trouve, globalement. Il y a eu un film, il n'y a pas longtemps, qui est sorti, qui a été produit par Canal+, qui s'appelle Iowa, qui parle justement d'une petite fille qui a un albinisme. Il y a eu pas mal de documentaires, il y a pas mal de personnes connues aussi qui ont un albinisme dans la sphère médiatique et qui permettent justement de montrer que ça existe. Typiquement, dans le rap, on a Kalash Criminel, on a aussi Salif Keita, au Mali, qui est un chanteur assez connu là-bas et qui permet justement de montrer que ça existe et que ces personnes-là ont des difficultés. Mais toutes les maladies rares ne sont pas représentées de cette manière. Typiquement, il y a une maladie aussi qui s'appelle la neurofibromatose, qui est une maladie rare qui est plus couramment retrouvée que l'albinisme en termes de prévalence. Et pourtant, elle est beaucoup moins médiatisée et peu de gens savent que ça existe, quoi.
Et pour continuer à parler un peu de médiatisation, donc toi, Hugo Fournier, tu es doctorant en psychologie, on l'a dit, on parle de plus en plus de santé mentale et de psychologie dans notre société actuelle. Quel regard tu portes sur le rapport qu'entretient la société et les individus aujourd'hui à la psychologie ? Est-ce que tu sens qu'il y a vraiment une prise de conscience comme quoi bah, ce qu'on a dans la tête, c'est hyper important, quoi ?
Ouais, depuis les dernières années, c'est assez présent. Déjà, avec les évolutions sociales sur... aujourd'hui, on prend beaucoup plus en considération les personnes vulnérables ou les minorités. Ce qui fait que, nécessairement, tout ce qui va être phénomène de discrimination, de stigmatisation aujourd'hui, c'est très, très mis en avant et c'est très, très lié aussi au psychologique. Et aussi, le fait qu'aujourd'hui, grâce notamment aux nouveaux médias sociaux, les gens peuvent témoigner, peuvent être compris aussi et peuvent trouver une communauté beaucoup plus facilement qu'à l'époque lorsqu'ils sont aux prises d'une difficulté psychologique ou carrément d'un trouble psychiatrique. Et avant, on avait les assos et c'était très localisé. Maintenant, on peut converser avec une personne qui a le même trouble que nous à l'autre bout du monde, échanger, faire des groupes paroles sur Discord, sur Reddit, sur Messenger ou quoi. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de possibilités aujourd'hui qui est permis par le fait que cette distance qu'il y avait à l'époque... elle est moins là. Et aussi, il y a, je pense, un véritable attrait de la population pour ces sujets-là, de plus en plus. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, ça, par contre. Je ne m'explique pas.
Alors, tu nous as dit que tu étais aussi ATER. Donc, ouais. Pour expliquer, c'est attaché temporaire à l'enseignement et à la recherche. Donc, tu as des missions d'enseignement. Comment le fait d'enseigner te nourrit déjà, toi, en tant qu'être humain, et nourrit aussi ta recherche et ton approche à la psychologie ?
Alors, déjà, ce qui est sympa avec l'enseignement, c'est qu'on redécouvre des cours qu'on a eus. Et on se rend compte qu'on avait oublié pas mal de trucs. Ça, c'est assez, assez drôle. Et du coup, ça fait un petit peu, ça active un petit peu le syndrome d'imposteur. On fait « Ah, je vais enseigner un truc que j'avais oublié ». Donc bon, à tous les étudiants qui critiquent leur chargé de TD, sachez que des fois, c'est compliqué parce qu'on enseigne des trucs avec lesquels on n'est pas forcément à l'aise. Mais aussi pour dire que c'est hyper enrichissant d'apprendre à être clair pour un public aussi. Ça, c'est extrêmement dur, surtout dans le milieu de la science, où on a tendance à complexifier le langage, avoir un jargon extrêmement peu accessible, on va dire. Et du coup, le fait de commencer à enseigner, par exemple, avec des L1, L2, L3, etc., comment réussir à traduire le langage et à trouver toujours des moyens d'être le plus compréhensible possible, sachant que les concepts sont parfois extrêmement alambiqués. Là, par exemple, je peux parler d'un des cours de psychologie cognitive que je donne dans le cadre d'un TD d'initiation à toutes les spécialités de la psycho. Punaise, le texte, c'est compliqué. Il y a des concepts qui font écho à vraiment des trucs très précis de la psychologie cognitive que quand on les connaît pas, mais c'est hyper galère. Et donc expliquer tout ça, essayer de le traduire, essayer aussi de rendre compte que vous aurez beau lire le texte une fois, vous le redécouvrirez toujours une deuxième fois, puis une troisième fois, etc. Il y a des choses dans, en tout cas, ce genre de texte qui feront que vous aurez toujours l'impression d'en apprendre à la relecture. Ça, nécessairement, c'est je pense l'un des trucs les plus importants de leur dire, qu'ils apprennent un truc à un moment donné, dans 3 ans ils y reviennent, ils comprendront autre chose.
Et qu'est-ce que tu as envie de faire pour ton après-thèse ? Est-ce que tu te projettes déjà dans cette dimension?
Oui, même si c'est un peu compliqué parce que ça change pas mal en ce moment. Déjà, après la thèse, il y a quelques articles que je dois continuer de publier. Donc, re-signer pour un post-doctorat typiquement. C'est pas du tout. Déjà que j'avais pas envie de faire de la recherche avant la thèse, là ça a confirmé l'envie que non. En tout cas, pas du tout pour l'université publique. Donc, en soi. Je finis mes articles et après, je me taille pour aller faire de la clinique. Donc, ce qui m'intéresse, ce serait de bosser dans des CESAD. Donc, c'est de l'accompagnement des familles qui ont des enfants qui ont un handicap. Ça peut être sensoriel, ça peut être physique, ça peut être intellectuel. Il y a aussi le travail en libéral qui m'intéresse parce que moi, je me forme à la thérapie systémique familiale et de couple actuellement. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et l'activité libérale, en ce sens, serait assez sexy, je vous cache pas. Bien que, comme je disais, le syndrome de l'imposteur est toujours très présent en sortie de l'école. Donc voilà, il y a toujours ce problème de est-ce qu'on est bien à l'aise avec sa pratique ou pas.
Et je vais te demander de sortir de cette posture de l'imposteur, peut-être pour donner quelques conseils à des étudiants qui souhaitent se lancer dans des études de psychologie ou peut-être qui aimeraient faire une thèse, qui ne sont pas certains. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans de telles études et avant de vouloir faire un travail de recherche ?
Alors, la première chose, c'est de savoir que si vous n'avez pas de financement, c'est très précaire. C'est extrêmement précaire sans financement. Ça veut dire que vous travaillez gratuitement pour une institution qui, en plus de ça, vous reconnaît très peu. Donc, moralement et matériellement, c'est très dur. C'est vraiment très dur. Donc, le financement, c'est important. Même si vous avez envie de bosser sur un sujet et que vous avez un directeur ou une directrice de thèse qui est très chaud pour ça, mais qui ne peut pas vous trouver de financement, franchement, il faut y réfléchir et il faut bien prendre cette décision en connaissance de cause parce que ça peut être très compliqué très vite. L'autre chose, c'est d'avoir un directeur ou une directrice de thèse avec qui ça matche bien. Si déjà dans le master, vous sentez que ça passe bien, le courant passe bien avec cette personne, que ces sujets, c'est des sujets qui vous touchent aussi et qu'il y a aussi une certaine expertise sur le domaine que vous voulez investiguer dans le cadre de votre thèse, déjà avoir le mentor ou la mentor qui saura vous accompagner au mieux, c'est aussi très important. Et ensuite, toujours en lien avec les financements, nous, typiquement, dans le cadre de la psychologie, il y a des concours de bourses qui existent et c'est très, très difficile. Donc, si jamais vous voulez soumettre votre candidature à ces bourses, il faut s'attendre vraiment à ce que ce soit préparation très, très rude. C'est très, très rude parce que du coup, c'est à qui mérite un financement pour faire de la recherche pendant 3 ans. Et parfois, il y a beaucoup de candidats, la compétition est très rude, les professeurs et professeurs se battent beaucoup pour leur clocher. Donc voilà, il faut aussi être armé moralement pour ces concours-là. Je recommande aussi à toute personne qui veut se lancer dans une thèse d'être suivie psychologiquement. Moi, ça m'aide, je sais que ça aide pas mal de mes collègues. Et même si on n'a pas de problème à la base, ça peut tellement être dur et contrariant des fois que c'est bien de pouvoir débriefer de tout ça avec quelqu'un qui saura faire, qui saura vous accompagner pour le mieux là-dessus.
Mais merci beaucoup, Hugo.
Mais merci beaucoup, Mélissa.
Campus Bordeaux 88.1.
Radio-Sonda 88.1.
On arrive déjà à la fin de cette interview. Une nouvelle fois, merci Hugo Fournier d'être venu sur notre antenne, d'avoir répondu à nos questions.